Nous sommes le dimanche 27 juin 1976 à l'aéroport Ben Gurion. Une hôtesse appelle les derniers retardataires à embarquer dans l'Airbus du vol 139 d'Air France. Il va décoller pour Paris. Dans l'avion, il y a 228 passagers, mais ils ont des sentiments partagés. Il y a des Juifs de France qui viennent de passer des vacances en Israël et qui regrettent déjà la plage de Natania et leur pèlerinage au Kotel. Mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens. Pour une grande partie d'entre eux, ce sont les premières vacances en dehors du pays. Et quelle plus belle destination que Paris, la ville lumière. L'avion doit faire une escale à Athènes, mais la police grecque n'a pas remarqué que 4 passagers supplémentaires sont montés dans l'Airbus. Ce sont des terroristes. Il y a 2 membres du Front populaire de la libération de la Palestine. Il y a aussi 2 Allemands, un homme et une femme. Eux, ils font partie de la fraction Armée Rouge. Les terroristes forcent la cabine de pilotage. Ils donnent l'ordre au capitaine de faire cap sur Benghazi, en Libye, pour se ravitailler en carburant. Puis, l'Airbus redécolle. Il va se poser sur l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. Les pirates de l'air savent qu'ils vont se trouver en terre amie. Le dictateur Amin Dada, c'est un ennemi juré d'Israël. Et 3 complices palestiniens les attendent à leur arrivée. Amin Dada fait transférer les otages dans le hall de transit. Les terroristes confisquent les passeports des passagers et ils séparent tous ceux qui ont un nom juif des autres. Le commando publie un premier communiqué. Il exige la libération de 53 terroristes palestiniens, dont 39 qui sont retenus dans des prisons israéliennes. Puis, les terroristes vont libérer en 2 vagues les passagers qui n'ont pas de passeport israélien. Ils proposent au capitaine de l'Airbus, il s'appelle Michel Bakos, et à son équipage, ils sont au nombre de 12, de partir eux aussi. Mais cet ancien des forces françaises libres refuse. « Je resterai ici, en TB, avec tous mes passagers et tout mon équipage. » Les Palestiniens et leurs auxiliaires allemands fixent un ultimatum. Si le 4 juillet, Israël ne relâche pas les prisonniers palestiniens, tous les otages israéliens seront exécutés. Yitzhak Rabin, qui est le premier ministre, propose que les terroristes soient échangés contre des otages en territoire français. Les Palestiniens refusent. Rabin n'est pas étonné. Mais il avait déjà donné l'ordre à Tzal de préparer l'opération militaire la plus audacieuse de son histoire. Quand les relations étaient au beau fixe avec l'Ouganda, ce sont les Israéliens qui avaient construit l'aéroport d'Entebbe. Et bien sûr, ils ont gardé les plans. Tzal va s'entraîner dans une réplique du bâtiment qui a été reconstitué en quelques heures, quelque part en Israël. Le 3 juillet, à 23h, 4 Hercules de l'armée de l'air israélienne se posent à Entebbe. Ils viennent de parcourir plus de 3500 km dans le plus grand secret, en survolant des pays ennemis. Les combattants de la Sayeret Matkal, l'unité d'élite de l'état-major, la brigade Golani et des parachutistes s'approchent du terminal. Un premier commando s'est caché dans une Mercedes. C'est la voiture du président. Les gardiens des otages croient reconnaître Amin Dada et sa garde rapprochée. Et ils s'apprêtent à lui rendre les honneurs. Ils sont surpris par la ruse de Tzal, car en 20 minutes, les otages sont délivrés et les terroristes et des soldats ougandais sont abattus. Mes 3 otages, Ida Borochovitch, Pasco Cohen et Jean-Jacques Maimoni, perdent la vie. Une 4e israélienne va elle aussi mourir. C'est Dora Block. Elle a 73 ans. Elle avait fait un malaise lorsque l'avion s'est posé en TB. Elle avait été transférée à l'hôpital pour y recevoir des soins, mais elle est froidement assassinée par des Ougandais. Après une escale technique à Nairobi, les avions atterrissent en Israël. Les parents des otages, Yitzhak Rabin, et une foule en liesse accueillent les rescapés, les militaires. Nous sommes le dimanche 4 juillet, une semaine après le décollage de l'Airbus depuis l'aéroport Ben Gurion. À Paris, le président Valéry Giscard d'Estaing se réjouit de la libération des otages, mais il n'a pas un mot, pour remercier Israël. Bien au contraire, le chef de l'État remercie son homologue ougandais pour ce qu'il appelle son aide humanitaire. Le Quai d'Orsay, lui, ne trouve pas mieux que de protester auprès d'Israël. « Vous avez violé la souveraineté de l'Ouganda ». Et Amin Dada veut même saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'on condamne Israël. Mais il échouera. Tsahal a réalisé un véritable exploit. Mais un officier israélien a été tué. C'était le chef de cette opération extraordinaire de sauvetage. C'était le lieutenant-colonel Yoni Netanyahu. Il avait à peine 30 ans. Dans une lettre, le frère aîné de Benjamin Netanyahu avait écrit « Je ne veux pas arriver à un certain âge, regarder autour de moi et découvrir soudain que je n'ai rien construit ni créé. Je ne donne pas beaucoup de valeur à une vie sans idéal et si je dois sacrifier ma vie pour réaliser cet idéal que je me suis fixé, alors je le ferai avec joie. »
בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם כבני רשף חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה